Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Dans son Histoire du paysage français, le géographe Jean-Robert Pitt de l'Académie des sciences morales et politiques évoque de nombreux aspects du paysage français. Et par le mot paysage, on entend non seulement le paysage naturel, mais aussi le paysage construit. Il y a d'ailleurs tout un avant-propos sur cette notion de paysage, pas si simple à comprendre. Bonjour Jean-Robert Pitt.
Bonjour.
Quand avez-vous écrit cet ouvrage ?
Oh, c'est un péché de jeunesse que j'ai commis en 1983, donc au tout début de ma carrière, alors que j'étais en train de préparer ma thèse d'état sur le châtaignier. Et un de mes amis éditeurs, qui est d'ailleurs membre associé de notre académie, Denis Maraval, m'a dit « tu devrais faire un livre sur l'histoire du paysage, puisqu'il y a un livre de ce genre qui est paru en Angleterre, qui s'appelle « Making of English Landscape » dans les années 50 et qui avait connu un certain succès. On n'a rien de tel sur la France, tu devrais le faire ». Donc je m'y suis lancé et je ne le regrette pas parce que ça m'a ouvert des horizons insoupçonnés. Je n'ai jamais eu à réfléchir à une synthèse courant de la préhistoire à nos jours sur mon pays. C'était finalement une lecture géographique de l'histoire de la France à laquelle j'étais convié. Et en même temps, bon, les géographes s'intéressent tous au paysage, mais on ne lit pas tellement la littérature des archéologues, des historiens. Donc ils sont plus dans la description et plus dans le rapport entre les fondements naturels du paysage que dans l'action de l'homme sur cet environnement. Donc moi, j'ai insisté beaucoup et surtout sur l'action de l'homme et sur le fait que le paysage est comme une peinture ou une sculpture qui correspond à des besoins économiques, politiques, culturels, poétiques même. Et donc ça m'a beaucoup appris, ça m'a aidé à formuler des synthèses et je dirais que ça m'a aidé à finir ma thèse dans des délais raisonnables parce que les thèses d'État, surtout d'Ancien Régime, pouvaient durer 20 ans. Donc là, j'ai appris à un peu l'art de la synthèse, oui, donc voilà. C'est très très utile. Donc je remercie mille fois, et j'en profite pour le dire ici publiquement, mon ami Denis Maraval de m'avoir poussé à écrire ce livre alors que j'étais sans doute un peu jeune pour tenter une synthèse ambitieuse. Et puis ce livre a eu un certain succès à l'époque, mais ce n'est pas un best-seller. Et il n'a jamais cessé d'être réimprimé et réédité. Donc là, on en est peut-être, bon, je crois, à la cinquième
édition en 2012.
Mais il y a eu des réimpressions, etc., sous des formes différentes, avec photos, sans photos. Donc ça, c'est une forme accessible, puisque c'est en livre de poche.
Voilà, chez Texto, on ne l'a pas dit, donc je le dis,
voilà.
Chez Texto. Donc à la fois, vous décrivez plutôt une géographie culturelle et une histoire, effectivement, des paysages. C'est descriptif, mais c'est aussi un livre engagé. Et dans la préface, c'est-à-dire 3 décennies après la première rédaction, vous avez réactualisé cette préface et vous dites « je n'ai pas changé ». Et notamment, vous n'avez pas changé, j'allais dire, dans cette attaque, entre guillemets, si vous me le permettez, contre un maître en architecture, et non des moindres, universellement encensé, qui est Le Corbusier. Alors pourquoi n'aimez-vous pas Le Corbusier,
Écoutez, quand je suis arrivé à écrire les chapitres concernant l'histoire contemporaine de notre paysage, évidemment, j'ai eu à parler des grands ensembles, puisqu'on a construit en France 170... ce qu'on appelait des ZUP à l'époque, les zones à urbaniser en priorité. Et donc ça, il fallait que j'en parle absolument, puisque beaucoup de nos compatriotes habitent dans ces grands ensembles. Et j'ai cherché à comprendre d'où venaient ces grands ensembles. Donc on disait spontanément, c'est parce qu'il y avait de gros besoins en logement dans les années 50 et 60. Il y avait encore des bidonvilles, des taudis. Donc il fallait loger les gens. On a fait vite. Il y a eu la reconstruction aussi, qui avait été un premier apprentissage dans les villes détruites. Donc on a fait pareil à toute vitesse. Mais en réalité, en creusant un peu, je me suis aperçu que ce n'était pas du tout uniquement une question de nécessité et de coût modéré de la construction. C'était un vrai projet idéologique et que la vraie source, elle est dans un petit livre dont je recommande la lecture à tout le monde, mais qui est terrifiant, qui s'appelle la Charte d'Athènes. Donc les architectes le lisent tous, mais on leur fait lire, ou on leur faisait lire, en tout cas, je ne sais pas s'ils le lisent encore maintenant, les étudiants en architecture, avec beaucoup de respect. C'est un livre fondateur de l'architecture contemporaine. D'ailleurs, ce livre, publié aux éditions de Minuit, qui est un livre de poche, était suivi d'un texte qui s'appelle « Entretien avec les étudiants des écoles d'architecture ». Et à l'époque, à sa première vraie parution, il a été écrit en 1933, mais il est paru pendant la guerre, en 1941, avec une préface quand même, excusez du peu, de Jean Giraudoux.
On se demande ce qu'il est allé faire dans cette galère,
dithyrambique, mais tout simplement parce que beaucoup d'intellectuels étaient fascinés par cette modernité. Il ne faut pas oublier qu'avant-guerre, beaucoup d'intellectuels et d'hommes politiques, quel que soit leur bord, étaient fascinés par ce qui se passait en Italie avec les débuts du fascisme, en Allemagne avec les débuts du nazisme, et en URSS avec la politique d'aménagement du territoire de Staline. Tous ces gens-là apparaissaient au départ, en tout cas tous ces mouvements et tous ces pays, comme des pays qui, après les drames de la Première Guerre mondiale, se relevaient, reprenaient leur destin en main et marchaient vers les lendemains qui chantent, les yeux tournés vers la modernité. Et la Charte d'Athènes est un de ces ouvrages, écrit par un Suisse, mais qui a beaucoup vécu en France, sur un bateau, au large d'Athènes, au cours d'une réunion, c'est pourquoi ça s'appelle la Charte d'Athènes, sur un paquebot offert par une très riche dame mécène de ses architectes. Et ils ont travaillé pendant quelques jours à réfléchir, à fonder, à donner les bases d'une nouvelle façon de penser l'architecture et surtout l'urbanisme.
Mais
et
vous donc, avez parlé d'idéologie, mais quelle est l'idéologie qui sous-tend cette charte?
L'idéologie, c'est que, pour moi qui suis géographe, c'est ce que j'avais découvert avec terreur en lisant ce livre, c'est qu'au fond, il n'y a plus besoin de respecter la diversité géographique, non seulement des environnements, des climats, des reliefs, etc., mais des cultures, parce que ce qui est bon pour les Chinois, est bon pour les Américains, est bon pour les Chiliens, est bon pour les Africains. C'est donc une négation totale de la diversité culturelle de l'humanité et de tout ce qui fait, au fond, un des grands plaisirs de vivre sur Terre. C'est de constater en permanence cette diversité, de vivre avec, parce qu'elle est stimulante. Tandis que là, on est au contraire dans un projet totalitaire qui vise à créer une ville idéale utopique, mais qui n'est pas resté utopique. Il y a eu des textes plus anciens de villes utopiques ou des essais comme Versailles, peut-être une ville utopique, ou Richelieu, ou
Arquesnan,
où on peut lire Thomas More et Utopia. Mais là, il s'agit vraiment d'un projet qui s'est concrétisé, qui s'est réalisé. Donc quand Le Corbusier, par exemple, dit au chapitre 29, c'est des tout petits chapitres, mais simplement le titre, vous allez voir à quel point c'est fondateur. Les constructions hautes implantées à grande distance l'une de l'autre doivent libérer le sol en faveur de larges surfaces vertes. Parce que, évidemment, lui voulait lutter contre ces villes surchargées, ces taudis, ces villes de briquet de broc qui s'étendaient, où on n'avait pas fait beaucoup de travaux d'urbanisme, d'hygiène et d'aménagement depuis parfois des siècles. Et donc, il va beaucoup plus loin que Haussmann. Haussmann a fait ça, mais il a limité son travail au centre de Paris. Tandis que Le Corbusier aurait rêvé, il avait dessiné dans les années 30 un plan qu'on appelle le plan voisin, qui visait à pratiquement détruire une grande partie de la rive droite de Paris et construire entre Montmartre et Belleville 5 immenses tours, 5 parallélépipèdes de béton qui auraient fermé l'horizon, disait-il, enfin donc de faire vivre des dizaines de milliers de personnes dans la même ville. Donc Le Corbusier, c'est l'anti-ville au sens où on privilégie la vie en commun. Et donc, il a réalisé 5 cités radieuses, dont celle de Marseille, qui est bien connue, qui sont des projets, en quelque sorte, sauvecausiens, de vie en commun très rapprochée des habitants, avec école intégrée, avec commerce intégré, hôtel intégré. On peut, de sa naissance à sa mort, vivre dans cette cité dite radieuse. Donc, c'est lui qui décide, qui décrète qu'elle va être radieuse. Donc, c'est un projet qui, au fond, explique la construction des grands ensembles, parce que ce texte a fasciné tous les architectes et urbanistes de cette époque. Et donc, quand il a fallu construire beaucoup dans les années 60, ils ont pris le petit manuel et ils l'ont appliqué. Donc, ça a donné Sarcelles, avec des cubes, des morceaux de sucre plantés sur du gazon. Le gazon a mis un certain temps à venir, les arbres ont mis longtemps à pousser. Et donc, ça a créé cet univers de béton que les Français ont apprécié dans un premier temps parce que c'était propre, confortable, et qu'ils sortaient d'immeubles ou de bidonvilles parfois. Mais ensuite, ça leur est devenu insupportable.
Donc,
dès les années 70, les Français commençaient à quitter. Rappelez-vous, il y a eu un ministre qui vit toujours, de Giscard d'Estaing, qui s'appelait Chalandon. Et ben Chalandon a fait passer une loi qui a permis d'emprunter à très très bas taux pour les classes moyennes et de construire des petites maisons pas chères qu'on a appelées les chalandonnettes. Donc tout le monde a rigolé, c'est pas sérieux, c'est un peu comme les petits pavillons de Molière de l'entre-deux-guerres, mais en béton, pas très joli. Mais les gens voulaient cela. Ils préféraient quitter leur HLM ou leur cité de banlieue pour aller dans un petit pavillon chez eux. On peut se moquer de tout ça, mais c'est légitime quand on sait à quel point la vie peut être difficile dans ces grands ensembles. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, un demi-siècle après leur construction, se sont concentrés dans ces 170 grands ensembles, qu'on appelle aujourd'hui d'un terme qui est galvaudé, des cités. Cité, c'est un tellement joli mot, mais appliqué à ces quartiers aujourd'hui très défavorisés, c'est un peu triste. Et dans ces cités se concentrent toutes les misères de la Terre et toutes les misères de notre pays, c'est-à-dire le chômage, l'immigration mal intégrée, les problèmes sociaux, les problèmes de drogue. Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un tableau. Alors, je ne dis pas que Le Corbusier est responsable de cela, mais sa responsabilité, à l'origine, c'est d'avoir pensé que ça rendrait les gens parfaitement heureux. Or, on ne fait pas de Paradis sur Terre et le drame de toute cette époque et de cet urbanisme dit international. En plus, la même chose pour tout le monde. Hein. Chandigarh en Inde, construction de Le Corbusier, ressemble à Sarcelles, qui n'est pas de Le Corbusier. Hein. Mais donc cette idée que ça va rendre les gens heureux, la société harmonieuse, que l'ordre va régner grâce à l'urbanisme, ça c'est là le projet utopique et dramatique. On ne peut pas croire cela.
Et donc vous le qualifiez de urbanisme progressiste et rationaliste. D'ailleurs, vous révélez aussi que Le Corbusier n'utilisait pas le mot « maison », mais le mot « machine à habiter ».
Oui, il a beaucoup utilisé cette expression pour fustiger, enfin pour se moquer de ce mot « maison » qui lui apparaissait complètement archaïque. Et donc, la machine à habiter, ça montrait ce côté rationnel, industriel, où chaque chose est à sa place, où on vit dans l'ordre. Mais c'est terrifiant. Il ne faut pas oublier qu'à la même époque, vous aviez les auteurs qui écrivaient 1984, « Le meilleur des mondes » d'Huxley, Orwell, etc. Vous avez en même temps des romans utopistes et surtout des régimes politiques qui créent le meilleur des mondes sur Terre. C'est-à-dire le régime soviétique, le régime nazi et d'une certaine manière le régime fasciste mussolinien où l'ordre doit régner et donc il faut mouler la société dans un ordre juridique, un ordre d'éducation aussi, un ordre intellectuel, un ordre politique, mais aussi un ordre paysager. C'est en les faisant vivre dans des bâtiments de ce genre que les mentalités des hommes vont changer. Or, vous voyez le danger que ça représente, c'est ce qu'on appelle le totalitarisme. Donc Le Corbusier est un des fondateurs du totalitarisme urbanistique qui a fait des ravages à la surface de la Terre et que nous payons aujourd'hui malheureusement très 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 cher.
Et des ravages dans les paysages, évidemment, parce que le paysage s'en est trouvé.
C'est pas parce que c'est du béton ou que je pense que on l'est dit surtout déshumanisé. Je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, comme toujours, à partir du moment où on a commencé à regarder les paysages, c'est-à-dire à partir du XVIe siècle pour la période moderne, on regardait les paysages, du moins une certaine partie de la société, dès l'époque romaine. Mais là où on a commencé à contempler les paysages et à les admirer et à trouver que certains paysages étaient plus beaux que d'autres, c'est le XVIe siècle. Et là, qu'est-ce qui plaît dans un beau paysage au XVIe siècle? Là, nous sommes dans le palais de l'Institut où on a aménagé ici un des premiers paysages faits pour être vu, le Pont Neuf. C'est le premier pont de Paris qui n'a pas de maison. Et donc, on peut être dessus, se promener et voir l'un des plus beaux endroits du monde qui est notre cher palais de l'Institut, en face, le palais du Louvre, ce triangle magnifique de la Seine à cet endroit-là, c'est là où elle est le plus large dans Paris et encadrée par des architectures exceptionnelles. Donc, c'est cette diversité aussi. Les bâtiments sont hétérogènes, ne sont pas complètement réguliers. Et c'est cette diversité, c'est la couleur des pierres, c'est ce mariage entre la pierre et l'eau, le reflet, le ciel qui est très présent aussi, qui fait qu'on peut juger ce paysage beau parce qu'il n'est pas tiré au cordeau et qui donc il est le reflet de la créativité humaine, de la fantaisie des artistes qui ont pensé ces paysages, des princes qui l'ont voulu, qui l'ont permis. Et c'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui.
Merci Jean-Robert Pitt, c'est votre chronique géographie sur Canal Académie. Il y a plusieurs autres sortes d'émissions avec vous sur cette géographie. Et puis l'histoire du paysage français de la préhistoire à nos jours est parue chez Texto. On vous retrouve bientôt dans une autre chronique.